Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. État fédéral miniature situé entre le golfe arabo-persique et la mer d'Oman, face au détroit d'Ormuz et à l'Iran, les Émirats arabes unis accueillent à Dubaï entre le 1er octobre et le 31 mars l'exposition universelle Dubaï 2020, reportée pour cause de pandémie. L'événement est attendu comme un rassemblement majeur pour la région. On évoque la plus grande exposition universelle de tous les temps. À quelques mois du 50e anniversaire de leur indépendance, les Émirats arabes unis maintiennent une stabilité politique précieuse dans une région agitée. Regard sur ce pays peu transparent de 9 millions d'habitants, dont 90% sont des étrangers, dirigé par Mohamed Ben Zayed aux ambitions géopolitiques fortes. Émirats arabes unis, une puissance régionale incontournable, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Emma Soubrier, professeure invitée à l'Institute for Middle East Studies à l'Université George Washington. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Fatia Dazieni, chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université Libre de Bruxelles et à l'UQAM de Montréal, auteur des Émirats arabes unis à la conquête du monde aux éditions Max Milo. Bonjour.
Bonjour.
Et je rappelle, Fatia Dazieni, que vous êtes aussi l'auteur de l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier. Les Émirats arabes unis n'ont pas été épargnés économiquement par la pandémie. Le PIB des 7 Émirats, dont Dubaï et Abu Dhabi, a chuté de plus de 6% l'an dernier en raison de la quasi-disparition des touristes de la région ou d'Asie-Pacifique et la baisse importante des cours du pétrole qui pèse pour un tiers du PIB et la moitié des recettes fiscales. L'exposition universelle de Dubaï qui s'installe jusqu'au mois de mars prochain et la remontée des prix du pétrole devrait redonner des couleurs à l'économie émiratie. 5e importateur d'armes du monde, les Émirats arabes unis sont mus par une stratégie régionale d'influence et de puissance. Entre armed power, avec participation présente ou passée dans nombre de conflits, Yémen, Syrie, Libye, Égypte, et soft power, qu'il s'agisse de projections économiques sur fonds d'investissement dans pléthore de ports aux quatre coins du monde, du Pérou aux Philippines, en passant par la France, au Havre et l'Inde, avec Cochin, de la signature des accords d'Abraham avec Israël, faisant des Émirats arabes unis, le troisième pays de la région à accepter de normaliser ses relations avec Tel Aviv, soft power encore avec cette politique d'accueil d'anciens dirigeants, pays refuge pour le président afghan après sa fuite de Kaboul. Ashraf Ghani est venu rejoindre aux Émirats l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf, l'ancien premier ministre de Thaïlande Thaksin Shinawatra, ainsi que Juan Carlos, l'ancien monarque espagnol, un pays qui œuvre dans une foultitude de directions sous la férule de son leader Mohamed Ben Zayed et qui a connu, Emma Soubrier, en 50 ans, une ascension assez fulgurante. Comment expliquer cette évolution ?
Si on voulait faire un bilan un peu de ces 50 années d'existence des Émirats arabes unis, je dirais que les 20 premières années ont été 20 ans de consolidation intérieure essentiellement. Assurer la sécurité des frontières, où se placer les frontières, résoudre des différends territoriaux avec les voisins, mais également consolider la nation, ce qui est notamment passé par la consolidation de l'appareil militaire des Émirats arabes unis. Après ces 20 premières années, avec une bascule qui se joue évidemment au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak, s'ouvre une deuxième période qu'on pourrait considérer comme 20 ans d'une certaine assertion auprès des puissances régionales et internationales comme un acteur à part entière, avec des stratégies bien spécifiques et doubles, puisqu'on a toute une stratégie de rayonnement et de soft power avec Dubaï et un renforcement d'une neutralité armée avec le hard power qui est plutôt piloté par Abu Dhabi. Le tout dans un équilibre de cette neutralité armée et d'attraction plus douce. Et ensuite se place un nouveau tournant en 2011 avec le début des printemps arabes. Et depuis, on peut dire qu'on a été témoin de 10 ans d'une confirmation et d'une rationalisation de cette stratégie à échelle nationale, régionale et globale sur fond de refonte de l'échiquier régional. Donc à présent, commence un nouveau chapitre de consolidation des acquis de ces 10 dernières années, dans un contexte où l'émergence des Émirats comme l'un des pôles à part entière de la région du Golfe, mais aussi des relations internationales plus largement, n'est plus à prouver. Donc cette consolidation et cette rationalisation, en particulier, peut être vue dans la politique étrangère, mais également politique intérieure, comme une reconsolidation de ce qui pouvait encore être vu comme une politique bicéphale entre les deux plus gros émirats. Ce que d'ailleurs on peut bien voir dans l'imagerie autour de la célébration des 50 ans des émirats et des prochains 50 ans, qui reflète largement cette ambition. On voit beaucoup le prince héritier d'Abu Dhabi aux côtés de l'émir de Dubaï.
Alors Fatia Daziani, en quoi finalement la question des printemps arabes a joué un rôle assez important dans l'évolution récente des Émirats arabes unis?
Oui, c'est une vraie rupture dans l'évolution des Émirats arabes unis, et notamment de sa politique étrangère, dans la mesure où jusqu'au printemps arabe, jusque dans l'affirmation réelle de Mohammed ben Zayed comme réel leader de la fédération, parce qu'il faut pas oublier que son frère est toujours vivant, le président de la fédération Khalifa, Cheikh Khalifa, qui a eu une embolie cérébrale en janvier 2014 et qui depuis, évidemment, ne règne plus et n'a plus de rôle politique. Donc son frère a pris le lead et c'est surtout à partir de cette date que les Émirats arabes unis ont cette nouvelle politique étrangère très assertive, interventionniste, de contrecarrer justement ces mouvements dominés par l'islam politique, qui est le véritable cheval de bataille de Mohammed ben Zayed. Et très clairement, là, les Émirats arabes unis s'imposent comme un acteur majeur pour contrer ce vent nouveau alternatif dans le monde arabe. Parce que ce qui fait quand même très peur à ce chef d'État autocrate, c'est une alternative possible par ces mouvements de l'islam politique. Donc il prend clairement le lead. Et ça, c'est une rupture très nette avec un rôle beaucoup plus policé des Émirats arabes unis dans le monde jusqu'à présent. Jamais les Émirats arabes unis n'avaient eu une politique aussi affirmative, comme ça, assertive, comme disent les Anglais. Et ça, c'est une vraie rupture. Donc, Emma a raison d'insister là-dessus, c'est un vrai changement. Donc, il y a eu toute cette phase de s'affirmer pour contrecarrer ces mouvements-là. Et finalement, on voit bien que l'islam politique a échoué. Hein. On l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie récemment, au Maroc, via ses élections, etc. Effectivement, cette nouvelle inflexion des Émirats arabes unis de sa politique interventionniste intervient aussi en même temps que, l'échec politique de ces mouvements islamistes au pouvoir de manière extrêmement éphémère.
D'où en tout cas les interventions des Émirats arabes unis au Yémen, on en reparlera, au Yémen, en Syrie, en Libye,
alors
et
ça,
de
c'est,
façon plus lointaine en Égypte.
Et puis ça controverse terrible avec le Qatar, parce que c'est Abu Dhabi qui est à l'origine de cette crise du Golfe, qui bien sûr aux côtés des Saoudiens, mais les Émirats arabes unis sont l'acteur principal de cette brouille.
Avec le blocus, avec Sébastien Boussois, avec le Qatar, démarré en 2017. Alors précisément, le 18 août dernier, Tanoun bin Zayed, le conseiller pour la sécurité nationale des Émirats arabes unis, s'est rendu à Ankara pour rencontrer le président Recep Erdogan. Les deux pays sont en délicatesse depuis de nombreuses années en raison du soutien turc à des mouvements islamistes au Moyen-Orient. Et là, comme le disait à l'instant Fatia Daziani, c'est vraiment l'islam politique, le cheval de bataille, la bête noire de Mohammed ben Zayed, le leader émirati. Et une semaine plus tard, Cheikh Tanoun rencontrait l'émir du Qatar, une première depuis l'embargo de 2017. Est-ce que ces visites marquent un changement dans la politique étrangère émirati, Sébastien Boussois?
Alors ce sont des éléments, encore à mon avis, extrêmement et trop récents pour pouvoir en tirer des conclusions rapides. Il est clair que depuis la fin officielle et concrète du blocus et de l'embargo, hein, puisqu'il y a aussi des vols qui ont repris entre les Émirats et le Qatar, et on est dans une situation où on a pu assister à un moment à une fin, ou en tout cas à une trêve des confiseurs qui est en tout cas sur le point de durer. Mais ça, ce sont les effets de manche. Ce sont les salam alek qui peut exister entre les deux pays de façade. Fondamentalement, je ne crois pas que cela change grand-chose aux deux stratégies des pays qui continuent à s'opposer, et dans leur stratégie nationale, mais également dans leur vision qu'ils ont du Moyen-Orient et donc du coup de leurs alliances. Je suis tout à fait d'accord avec Fatia quand elle dit qu'il y a véritablement quelque chose d'assez novateur dans une transformation de l'intérieur vers l'extérieur et dans la l'importance de plus en plus croissante d'une politique, moi je dirais presque d'expansion et d'ingérence claire et nette dans le Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. Où je diverge un peu, c'est sur la notion dite de l'islam politique qui me paraît être à force un peu galvaudée. Je pense qu'effectivement Mohamed Ben Zayed continue à avoir très peur des frères musulmans. Beaucoup de pays s'en sont détachés. Le Qatar les a soutenus au début et a pris une claque parce qu'effectivement, comme le disait Fatia, il n'y a plus un seul pays qui est gouverné par les frères musulmans, si ce n'est la Turquie, mais qu'il était déjà depuis le 2002, bien avant tout ça. Et donc du coup, Mohamed Ben Zayed a un peu axé cette obsession de l'islam politique, dans lequel je mettrais quand même le wahhabisme et le salafisme, et notamment de nos amis saoudiens, dont il faut aussi évidemment se méfier. C'est-à-dire que ces courants alternatifs, ces idéologies pour le Moyen-Orient sont effectivement un problème. Maintenant, il est clair que depuis les printemps arabes jusqu'à aujourd'hui, toute la difficulté a été d'accepter des processus révolutionnaires, d'accepter des processus démocratisants et de constater malheureusement que les seules alternatives structurées à l'époque étaient effectivement les courants islamistes. Donc je pense qu'il faut pousser dans une logique, en tout cas peut-être un peu encore idéaliste, vers une évolution démocratique, ce que ne souhaitent pas les Émiratis et ce que Mohamed Ben Zayed fait clairement, c'est-à-dire remettre en place des militaires un peu partout pour permettre une stabilité autoritaire dans la région qui est à des années de lumière de ce qu'on a connu des printemps arabes.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, où en est-on, Emma Sobrier, de la politique expansionniste et d'ingérence qu'évoquait à l'instant Sébastien Boussois, qui a aussi précisé qu'il était important de ne pas conclure trop rapidement un changement dans la politique étrangère émiratie, avec peut-être cette quête de détente, en tout cas une visite donc en Turquie et une visite au Qatar. Peut-être l'occasion aussi de parler de la relation avec l'Arabie Saoudite, Emma Sobrier.
Oui, alors pour rebondir un peu sur les commentaires de Fatia et de Sébastien, je voulais revenir effectivement sur cette idée absolument fondamentale d'une opposition qui s'est jouée depuis 2011 entre une posture émirienne qui a fait, comme le disait Fatia, des frères musulmans un cheval de bataille, ou voire une bête noire, et de l'autre côté, juste à côté dans le Golfe, le Qatar qui, eux, soutenait largement les frères musulmans. Sur ce point, il y a une véritable dimension sécuritaire dans la perception de Mohamed Ben Zayed des frères musulmans spécifiquement à l'intérieur des Émirats, comme l'ont souligné à la fois Fatia et Sébastien. Mais je dirais que, en plus de ces divergences idéologiques, il est important de replacer ces positionnements depuis 2011 des Émirats et du Qatar sur une grille de, en fait, ces deux acteurs ont cherché à s'imposer dans un nouveau paysage stratégique régional. Donc, ça n'enlève pas complètement la dimension idéologique de leur positionnement, mais il faut vraiment le replacer dans une dynamique de puissance, parce que en fait, ces deux petits États du Golfe ont cherché à tirer avantage du tumulte régional pour s'imposer comme des nouveaux acteurs incontournables. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, leur positionnement peut être en partie expliqué par un certain narcissisme de la petite différence, au sens où ils ont tout fait pour se distinguer l'un de l'autre Notamment parce qu'en fait, il y avait tellement d'aspects si semblables entre eux à l'origine, notamment semblables en termes de défis intérieurs, avec une petite population et une majorité écrasante d'expatriés, et extérieurs en termes de trouver un certain équilibre avec les autres pôles de puissance régionaux. Enfin, les grands pôles de puissance régionaux, et notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran, et avec l'Irak qui était un peu en marge, évidemment, toutes ces dernières années. La raison pour laquelle je reviens sur tout ça, c'est que aujourd'hui, à mon sens, et je suis d'accord avec Sébastien qu'il est encore un peu tôt pour savoir si les Émirats vont à nouveau complètement changer de portage dans la région, mais ce à quoi on assiste, et je crois que Fatia parlait de ça également, c'est qu'on a très largement une stabilisation aujourd'hui d'un ordre contre-révolutionnaire dans la région où du coup, il est possible que les Émirats, pour cette raison, mais aussi pour les raisons de difficultés économiques que vous avez soulignées dans votre introduction, mais également d'un certain pragmatisme et d'un réalisme sur la nature de la menace aujourd'hui, qui n'est pas seulement une menace militaire ou politique, mais une menace sanitaire, une menace en termes de sécurité alimentaire, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons-là, il est fort possible que les Émirats ne voient plus cet expansionnisme militaire comme une nécessité aujourd'hui.
Fatia Daziani, vous partagez ?
Oui, moi je trouve tout à fait judicieux ce que vient de dire Emma. C'est vrai que on assiste clairement, et c'est le constat saoudien. Alors, les deux ne l'avoueront jamais, mais finalement au constat de l'échec total et du fiasco de l'interventionnisme à l'émirienne ou à la saoudienne. A fortiori saoudienne.
Exemple le plus probant, c'est le Yémen.
Bien sûr. Et je pense qu'il tire aussi les leçons de la pandémie, hein, qui, comme vous l'avez très justement dit dans votre introduction, avec la baisse des cours pétroliers, la baisse d'activité économique en provenance d'Asie, parce que c'est surtout de Chine, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud que les demandes en hydrocarbures se font vers le Golfe, eh bien, l'activité a fortement diminué, les économies ont été fortement affectées, et ils ne peuvent plus se permettre une brouille comme il en a existé pendant 3 ans et demi entre eux. Ça, c'est clair, ils font ce constat. Pragmatisme. Et évidemment, on peut pas, parce que c'est souvent des stratégies très court-termistes quand même à chaque fois. Donc c'est compliqué d'avoir une vision sur le long terme avec ces pays qui ont quand même des visions un petit peu à courte vue. Donc cet épisode pandémie, plus le retrait très clair des États-Unis de la région, que ce soit avec l'épisode Trump suite aux attaques des tankers sur Fujairah ou les attaques Abqaiq en septembre 2019, je pense que le début de prise de conscience de cette politique interventionniste over, c'est l'été 2019. Les Émirats sont les premiers à annoncer qu'ils se retirent du Yémen. Enfin, c'est un retrait tactique, parce qu'ils sont encore très présents. Ils occupent des îles. Ils sont les principaux soutiens des séparatistes du Sud au Yémen. Ils sont encore très présents sur la Corne de l'Afrique, etc. Donc c'est un retrait tactique. Mais quand même, ils retirent leur effectif sur place, leur armement lourd, et ils font un accord, un MOU, pour contrôler le flux maritime avec les Iraniens. Ils ont un dialogue critique stratégique avec les Iraniens. Et les Saoudiens aussi font le constat que même si Trump, leur plus fidèle soutien, les abandonne dans cette bataille, c'est qu'effectivement, il faut parler à tous les acteurs régionaux. Et aujourd'hui, on assiste quand même, que ce soit de la part des Émiratis ou des Saoudiens, à une volonté de dialogue avec tous les acteurs régionaux, y compris la Turquie, bien sûr l'Égypte. L'Arabie Saoudite et le Qatar se sont très clairement rapprochés, parce que c'est à l'initiative de l'Arabie Saoudite que la paix est scellée au sommet d'Al-Houla. Les Émiratis y allaient en traînant les pieds. Mais aujourd'hui, bon, ils font le constat que, voilà, Cheikh Tahnoun a rencontré Cheikh Tamim, et même l'émir de Dubaï a rencontré, en marge du sommet de Bagdad fin août, l'émir Tamim. Donc, peut-être qu'il y a des salam alek, on a l'habitude un peu dans cette zone de toutes ces... Mais il n'empêche qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut se parler, il faut dialoguer. On ne sait pas ce que va donner le dialogue avec les Iraniens, etc. Mais une chose est claire, ils ne font plus confiance en la garantie de sécurité américaine, même si, bien entendu, l'Amérique reste le partenaire le plus important. Ils font avec les Saoudiens, ont signé un accord de défense avec les Russes, ils font avec les Chinois, Et ils sont parfaitement conscients qu'il faut passer à autre chose qu'à des brouilles régionales.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Fatia Dazieni, avec Sébastien Boussois, à qui je donnerai la parole en priorité, et Emma Soubrier, après le journal. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur les Émirats arabes unis. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis les États-Unis. Emma Soubrier, professeur invité à l'Institute for Middle East Studies à l'Université George Washington. En studio, Fatia Dazieni, chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier. Et par téléphone, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université libre de Bruxelles et à l'UQAM de Montréal, auteur de Émirats arabes unis à la conquête du monde, paru aux éditions Max Milo. Sébastien Boussois, on a terminé la première partie de l'émission avec l'intervention de Fatia Dazieni, qui mettait l'accent sur cette prise de conscience aujourd'hui dans les pays de la péninsule arabique, de la nécessité de dialogue. Vous partagez ?
Oui, alors, en partie, je dirais que les Émiratis comme les Saoudiens, et plus les Émiratis, à mon avis, se sont rendus compte que à être trop biberonnés au modèle occidental et américain, c'est-à-dire enclencher des guerres et les perdre, ils n'en perdaient pas forcément pour autant la face. Je pense qu'ils restent quand même, dans cette situation-là, des vainqueurs, avec effectivement une emprise et une influence extrêmement forte et sur les conflits et sur les situations qui sont en crise dans la région. Donc, je dirais que les choses sont bloquées du côté des Émiratis côté Yémen. Effectivement, je suis d'accord avec Fatia sur l'idée qu'il y a un repli stratégique, tactique, mais derrière, il y a encore la présence claire et nette de compagnies privées, mercenaires et compagnies. Je crois que les Émiratis ont aussi compris que, bon, les guerres, pour l'instant, on allait calmer un peu le jeu. On continue à faire beaucoup d'ingérence, mais surtout, on fait du business. Et pour le coup, là, je dirais qu'entrent en scène les accords d'Abraham, parce que l'économie est repartie comme en 14 entre Émiratis et Israël depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a eu 600 milliards de dollars d'échange, c'est-à-dire 10 fois plus qu'il y a un an. Donc ça, c'est extrêmement important pour les Émiratis. On sait très bien qu'ils avaient déjà ils faisaient déjà du business ensemble depuis 1996, mais là, l'officialisation a encore plus fait exploser les chiffres. Et puis, il y a aussi ce rapprochement avec l'Iran dès l'été 2019, parce que les Émiratis ont été bien en peine quand on a eu, je crois, 350 000 Iraniens qui ont quitté Dubaï après le déclenchement du blocus et de l'embargo et de la crise contre le Qatar, où les Iraniens font quand même tourner Dubaï. Donc il y a eu une vraie difficulté financière à Dubaï liée à cette situation-là. Et je rappellerai le dernier élément de business et en tout cas de redispatchage des alliances ou autres. Les Émiratis se sont quand même largement, et à commencer par les businessmen rapprochés de Bachar al-Assad et de la Syrie, et dans une situation où clairement on pousse et on appelle à la normalisation alors que nous, on grince encore des dents. Et les businessmen émiratis s'en donnent à cœur joie dans la Syrie de Bachar al-Assad encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment une volonté extrêmement pragmatique et stratégique d'avoir des alliances, de les changer. Mmh. Mais ça, c'est tous ces micro-confettis géopolitiques font à peu près la même chose. C'est véritablement une question de survie. Et je finirai aussi dans l'emprise des Émiratis au-delà des guerres, au-delà du business, dans des formes de, peut-être appeler ça de colonisation, j'en sais rien, mais en tout cas, que ce soit la conquête des terres rares en Afrique ou que ça soit clairement la place des Émiratis sur l'île de Socotra, qui est vraiment le point névralgique de circulation du brut depuis le Golfe à destination du monde, je crois que les Émiratis sont pas pour autant prêts à revenir dans leurs frontières, si je puis dire, ou en tout cas rester modestement à leur place.
L'île de Socotra, on est là bien sûr au large du Yémen. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des relations avec les États-Unis. Emma Soubrier, vous êtes à Washington. Dans les accords d'Abraham de septembre 2020, il y a eu la promesse de livraison par les États-Unis d'avions de combat F-35. Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation à attendre entre Joe Biden et les Émirats arabes unis? L'administration Trump s'est montrée plutôt conciliante avec les Émirats arabes unis jusqu'en 2020. Est-ce que l'administration Biden est réellement moins favorable aux Émirats arabes unis que Donald Trump, Emma Soubrier?
Je pense que c'est vraiment intéressant de regarder l'évolution aujourd'hui des relations entre les États-Unis et les Émirats arabes unis sous la nouvelle administration. Comme vous le soulignez, pendant l'administration Trump, enfin, oui, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y avait des connivences entre les deux pays. D'ailleurs, en ce moment, aux États-Unis, il y a un procès qui est intenté à un homme d'influence qui a directement agi pour le compte des Émirats Arabes Unis. Donc, ça fait partie de la toile de fond de ce à quoi l'administration Biden doit faire face aujourd'hui dans ses relations avec les pays du Golfe, notamment très précisément les Émirats Arabes Unis. Au sujet des accords d'Abraham, je voudrais juste souligner, parce qu'il a été question deux fois de l'île de Socotra, que effectivement c'est vraiment très intéressant de voir, à mon sens, un différentiel de perception de la part d'Israël et de la part des Émirats Arabes Unis de ce qui est attendu avec ces accords. Pour Israël, il s'agissait beaucoup d'une consolidation espérée d'un front anti-iranien. Et comme ça a été souligné notamment par Sébastien à l'instant, du point de vue des Émirats Arabes Unis, consolider un front contre l'Iran, ça fait pas partie des priorités en tout cas. Et c'est pas comme ça qu'étaient vus les accords d'Abraham, mais plutôt comme un potentiel assez exponentiel de coopération économique, mais aussi technique en termes de technologie de défense, etc. Donc je repêche votre question à ce niveau-là, c'est que évidemment il y avait également un enjeu stratégique, puisque en établissant cette coopération avec Israël, les Émirats s'ouvraient la possibilité de enfin obtenir notamment l'avion F-35 par lequel ils étaient intéressés pendant des années. Face à ça, on voit une danse assez intéressante de l'administration Biden, puisque il y a eu des mots très très forts, notamment du candidat Biden originellement, sur le fait que la politique à la Trump, très transactionnelle, très axée sur des ventes d'armes à tout prix, indépendamment des conséquences sur le terrain, etc., allait être changée. L'administration Biden a fait grand cas d'un nouveau portage davantage axé sur la défense des droits humains, de s'assurer que les armes qui sont exportées par les États-Unis ne tombent pas entre de mauvaises mains, etc., parce qu'on a un certain nombre de cas de violation des droits humains et d'utilisation plus que malencontreuse d'armements américains, notamment au Yémen. Et en même temps, ces déclarations peinent à se traduire en action pour le moment. Donc on a une suspension du contrat d'armement. Il n'est pas très sûr à quel moment ce contrat va être débloqué. Mais je dirais que le plus important aujourd'hui dans la relation entre les Émirats et les États-Unis, c'est que on assiste vraiment à... Les Émirats Arabes Unis récoltent les fruits d'une stratégie qu'ils ont mis en place depuis une trentaine d'années de diversification de leurs partenariats pour véritablement mettre en avant qu'ils ont une certaine indépendance vis-à-vis de leurs partenaires, y compris un aussi grand partenaire que les États-Unis. Et aujourd'hui, on peut voir dans les hésitations de la politique américaine vis-à-vis des Émirats Arabes Unis, la preuve que les Émirats Arabes Unis ont réussi à se ménager cette certaine autonomie.
Alors, autonomie, Fatia Desini, je me tourne vers vous. C'est sous Donald Trump que ces accords d'Abraham se sont faits et qu'il y a ce rapprochement entre les Émirats Arabes Unis et Tel Aviv. Un rapprochement qui agace un peu à Riyad. Je parle sous votre contrôle et vous allez m'en parler. Et certaines infos font état d'un projet de base militaire israélienne aux Émirats Arabes Unis.
Alors, je voudrais déjà revenir. Moi, je partage pas cette perception qui est de dire que les accords d'Abraham soient décorrélés de la problématique sécuritaire iranienne. Non, je pense pas. Moi, je pense au contraire que les tractations entre Israël et les EAU se sont accélérées suite au refus de Trump de répliquer aux attaques sur les tankers à Fujairah en 2019 et aux attaques d'Al-Abqaq. Les Émirats Arabes Unis et les Saoudiens ont été traumatisés par cette réaction.
Ces attaques iraniennes. Hein.
Oui, iranienne, elle est revendiquée par les Houthis, mais il est clair que c'est de la marque iranienne. Surtout, les déclarations de Trump, qui étaient pour le coup pleines de bon sens en même temps, parce qu'il disait simplement, avec tout l'armement qu'on vous vend, vous êtes capable de vous défendre tout seul, il est hors de question qu'un seul soldat américain puisse faire les frais d'une réplique contre l'Iran. Donc ça a quand même fortement traumatisé et convaincu finalement les Émiratis que s'il se rapprochait d'Israël, ben Israël était un allié beaucoup plus sûr pour contrer l'Iran. Donc de ce point de vue-là, moi je suis plutôt de ceux qui pensent vraiment que c'est ça qui a accéléré l'officialisation des relations avec Israël, qui est un secret polichinelle pour les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont des relations sécuritaires avec des transferts de technologie depuis longtemps.
Et l'Arabie saoudite qui continue de traîner les pieds.
Mais l'Arabie saoudite ne va pas normaliser avec Israël, ça c'était un leurre. Alors c'est vrai que le prince héritier, qui est contrairement à Tamim et à MBZ, n'est pas idéologue. C'est quelqu'un qui a une vision extrêmement business du monde et pour son pays, et qui, bien sûr, est d'accord avec MBZ pour contrer les frères musulmans, parce que ce sont deux autocrates qui n'imaginent pas une alternative politique à leur pouvoir, tout simplement. Donc, pour en revenir à Riyad et au rapprochement avec Israël, c'est un rapprochement business, technologique, mais l'Arabie saoudite, c'est la terre des lieux saints, et il n'est pas question, bien entendu, le prince héritier l'a dit lui-même, je suis parfaitement au courant que ma société n'est absolument pas prête à accepter cela, donc je ne le ferai pas. C'est un pays dont il n'est jamais sorti, il connaît mieux que personne son pays. Maintenant, un pays comme les EAU, ils n'en ont rien à fiche de leur opinion publique. De toute façon, elle est totalement muselée, c'est une population extrêmement restreinte. En Arabie saoudite, vous avez 23 millions de Saoudiens quand même.
Alors que les EAU, je le disais en introduction, c'est 9 millions d'habitants, dont 90% d'étrangers.
C'est ça, on dit au maximum 900 000 émiratis. D'où cette nouvelle politique de naturalisation et de donner des visas à longue durée pour leurs expatriés qui sont là depuis des années, qui sont très bien intégrés. Là, aujourd'hui, effectivement, les relations entre les deux hommes forts de la région, entre Mohamed bin Salman, le saoudien, et Mohamed bin Zayed, se sont un peu rafraîchies. Il n'empêche que je n'imagine pas du tout de bataille ouverte entre les deux. Il y a beaucoup trop à perdre et ils ont beaucoup trop en commun. Mais il y a des conflits d'intérêts très forts sur le Yémen, sur la question aussi aujourd'hui d'Israël, et puis la compétition économique, puisque Mohamed bin Salman veut disputer aussi aux Émirats la place de premier hub commercial, économique dans la région.
Donc rivalité, on l'a compris, entre Mohamed bin Salman en Arabie Saoudite et Mohamed bin Zayed dans les Émirats Arabes Unis. Alors, il y a plein de sujets que je voulais que l'on développe. Alors, Sébastien Boussois a parlé du rapprochement avec l'Iran. Il y a aussi rapprochement avec la Chine en 2020, probablement sous l'effet du Covid. Moscou, qui est aussi un partenaire important. Et dans la rivalité entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a aussi cette question de l'après-pétrole, la stratégie de chacun, est-ce qu'elle est convergente, divergente? Et puis enfin, l'image d'État moderne et visionnaire des Émirats Arabes Unis, est-ce que cela correspond à la réalité? Alors Sébastien Boussois, je vous propose de piocher dans ce que vous voulez, mais je voudrais vraiment qu'on arrive à aborder un petit peu toutes ces thématiques d'ici la fin.
Moi, je rebondirais sur la question du mirage, et en tout cas ce qu'ont été les Émirats il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé là-bas et qui voyaient effectivement probablement une sorte de phare de l'ultralibéralisme et finalement un des pays qui, dans le monde arabe, aurait pu montrer une voie ou un chemin. Et puis, il y a eu ce raidissement et il y a eu ce changement. Et on voit aujourd'hui qu'on est beaucoup plus dans un glissement sécuritaire. Mais pour autant, on continue à vendre le soft power et l'image des Émirats qui soit attractive. Et ça, je trouve que c'est assez un coup de génie, parce que ça concerne Dubaï, où tout le monde va, y compris par exemple en pleine pandémie, encore en octobre-novembre dernier, j'ai des copains qui ne savaient pas où aller, ils sont allés à Dubaï, parce qu'en plus, on offrait pour le même prix le vaccin. Les gens vont dans cette ville qui paraît extrêmement festive, extrêmement joyeuse, où on peut faire du ski et en même temps aller à la mer dans la même journée. On voit les influenceurs, les influenceuses qui font la promotion de la vitrine de Dubaï de manière incroyable, beaucoup de Français, même des Suisses et autres. Et ça, je crois que ça reste, à mon avis, une marque de fabrique extrêmement forte en termes de soft power, qui va continuer à s'étendre. Je reciterai le cas de la visite de Mohamed Ben Zayed au château de Fontainebleau il y a 15 jours, et du mécénat plus ou moins discret parfois pour avoir une présence extrêmement, extrêmement visible dans l'Hexagone ou ailleurs. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui, et ça tient, une image hyper attractive des Émirats. Alors, ils sont très bien entourés, ils sont très bien équipés de cabinets, ils sont aujourd'hui devenus le nouveau KGB du Moyen-Orient, avec beaucoup de groupes de conseils, mais également de personnes qui vont diffuser fake news et autres, etc. Mais c'est de bonne guerre, tout le monde le fait dans la région. Et c'est vrai que du coup, ça tient encore. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais je trouve que c'est effectivement un grand écart qu'il va être, à mon avis, de plus en plus compliqué de tenir. C'est-à-dire l'enfermement d'Ahmed Mansour, principal opposant aux Émirats, qui est toujours en prison. Les trois agents de la NSA qui travaillaient pour les Émirats et qui ont été arrêtés aux États-Unis. Et dans le même temps, les gens qui y vont pour faire la fête, pour aller blanchir de l'argent, soyons clairs, les Émirats, c'est ça, et puis qui vont faire beaucoup de tourisme, mais qui, du coup, avec le tourisme et ses vertus, ils vont aussi pour le vice, puisque Dubaï est devenue une grande capitale de la prostitution dans la région, comme nulle part ailleurs. Voilà, c'est un peu tout ça à la fois, tous ces paradoxes, mais pour l'instant, ça tient.
Alors, en guise de conclusion, Emma Soubrier, qu'est-ce que l'on peut dire des défis principaux aujourd'hui des Émirats Arabes Unis? J'en revenais à la question de l'après-pétrole et les ambitions géopolitiques de Mohamed Ben Zayed.
Alors, pour rebondir un peu sur le melting pot de sujets que vous avez abordés et qui me permettra, j'espère, de conclure en effet, ce qui me semble vraiment important dans l'approche émirienne, c'est que on observe vraiment une volonté de faire une distinction entre des précautions absolument nécessaires en termes de sécurité et donc de dimension militaire de leur stratégie qui reste bel et bien présente et qui explique en partie, comme le disait Fatiha, les accords d'Abraham, mais également un réalisme commerçant qui identifie et se saisit des opportunités économiques qui se présentent. Donc cette dualité de la stratégie émirienne, elle est en toile de fond des relations avec la Chine que vous mentionnez, avec la Russie, également avec l'Iran, et dans une certaine mesure, plus récemment, du rapprochement avec la Turquie, même si c'est encore balbutiant. Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette certaine fluidité et nuance dans la perception des acteurs fait que ça explique en partie la relation privilégiée entre les Émirats et la France, qui se pose comme un partenaire qui ne cherche pas à imposer de pression et qui n'arrive pas avec une certaine arrogance ou des préconditions qui peuvent être posées ailleurs par d'autres acteurs, notamment comme les États-Unis. Et je pose ça parce que, à mon sens, un des défis potentiels qui va se présenter aux Émirats Arabes Unis et aux pays du Golfe prochainement, sur toile de fond de l'accord AUKUS, c'est la potentielle volonté américaine de forcer les pays du Golfe à faire un choix entre leur partenariat avec les États-Unis et avec la Chine. Et évidemment pas tout compris, mais forcer les États du Golfe à se distancer de la Chine, puisqu'on voit bien avec l'accord AUKUS une volonté confirmée des États-Unis de pousser encore une fois à les partenaires des États-Unis à faire des choix. Et le point que j'ajouterais pour rebondir sur ce que disait Fatiha sur les hommes forts du Golfe, mais également sur ce qu'elle notait très justement sur le fait que ces deux hommes forts, Mohamed Ben Zayed et Mohamed Ben Salman, ont été forcés de composer avec le nouveau jeu régional dans lequel le Qatar a, malgré tous leurs efforts, réussi à tirer son épingle du jeu. Et aujourd'hui, je pense qu'une des manifestations du fait que le Qatar a bel et bien tiré son épingle du jeu, malgré les efforts de ses voisins, c'est ce qui se passe avec l'Afghanistan. Et je pense que ça va être également un des gros sujets qu'on va continuer à suivre ces prochains mois, pour voir comment est-ce que les Émirats arrivent à se positionner vis-à-vis de tout ça.
Le Qatar qui a donc accueilli les négociations avec les talibans et qui aujourd'hui a la mainmise, entre guillemets, en tout cas l'aéroport de Kaboul est aujourd'hui totalement entre les mains du Qatar.
Et qui est devenu un acteur central entre les Occidentaux et justement
les talibans. Les talibans. Oui. Alors Fatiha Dazini, oui, conclusion très rapide.
Très courte. Pour rebondir sur quoi a dit Emma, effectivement, la politique étrangère des EAU va être, à mon avis, conduite largement par des motivations économiques. Et c'est vrai que l'enjeu fondamental sera certainement ces pressions que les pays du Golfe, et notamment les Émirats Arabes Unis, vont subir des États-Unis par rapport à leur rapprochement avec la Chine. Et à mon avis, c'est cette compétition-là qui risque de se... de se confirmer. Oui.
Et de s'affirmer. Et merci Fatia Desini. Je rappelle que vous êtes chercheuse Golfe Moyen-Orient à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et auteur de l'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions Talendier. Merci aussi à Emma Soubrier qui était avec nous par téléphone depuis les États-Unis. Emma Soubrier qui est professeure invitée à l'Institute for Middle East Studies à l'Université George Washington. Et par téléphone également Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'Université Libre de Bruxelles et à l'UQAM de Montréal, auteur de Émirats Arabes Unis à la conquête du monde aux éditions Max Milo. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, tour d'horizon de l'actualité internationale depuis Abu Dhabi précisément, où se tient ce week-end la World Policy Conference fondée et dirigée par Thierry de Montbrial, également fondateur et directeur de l'IFRI.